France Inter.
La bande originale avec Leïla Kadourzadi, avec Julie Conti, Bruno Pecky. Tout est en i. Il y a Oldelaf. Tout ça pour accueillir nos invités Valérie Bonneton et Samuel Gaspi.
Bravo.
La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue, ravi de vous accueillir pour parler de cette série grave mais extrêmement bien jouée, bien réalisée, prenante, qui s'appelle l'affaire Laura Stern. Comment allez-vous, Valérie ?
Oh, mais bien.
Bien ? Samir également, pareil ?
Oh, très bien.
C'est vrai, vous avez... Il est toujours calme, Samir. Est-ce que vous avez déjà vu Samir énervé sur le tournage ou pas ?
Oh, il peut s'énerver, c'est sûr. Mais jamais, non, c'est vrai.
Hein, pas genre.
On a beau couru.
Non. Alors, il y a un truc génial à la radio, c'est le micro, Samir.
Ah ouais.
qui est cet objet qui est un peu à 3,50 mètres de vous. Mais non,
Samir, il est né comme ça naturellement.
Il se pose. On va parler de l'affaire Laura Stern avec l'histoire d'une pharmacienne. Petit tour de table pour savoir quelles sont votre manière de vivre avec la pharmacie ou la pharmacienne ou le pharmacien. Est-ce que vous allez, Julie, tu y vas genre faire tes courses point barre ou tu
t'appelles à discuter? C'est vrai que quand on approche la quarantaine, aller chez la pharmacienne, c'est comme aller faire son shopping, quoi. Je vais plus souvent à la pharmacie maintenant qu'acheter des fringues. Donc,
t'as des wishlists, c'est ça?
Un petit peu, ouais.
Non, mais c'est vrai que perso, avec mes pharmaciens, c'est un couple, homme-femme, non seulement on discute, mais c'est presque une espèce de consultation. Plus que je vous donne l'ordonnance et donnez-moi ce qu'il y a. On discute.
Ils savent tout sur nous, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis même quand il y a un petit bobo et qu'on n'est pas allé voir le docteur, c'est la première étape. Bruno ?
Non, moi j'ai un rapport assez libertin avec les pharmacies.
Libertin ?
Ouais, j'ai pas une relation exclusive avec une pharmacie en particulier.
Ça dépend ce que tu vas chercher.
Ah, d'accord.
Ouais. Ah non, mais si j'ai besoin d'un truc et je suis à l'autre bout de Paris, je vais dans cette pharmacie.
T'es pas fidèle à ta pharmacie ?
Non, j'ai pas ça.
Leïla ?
Non, moi j'ai une passion parapharmacie.
Ah ouais.
Voilà.
On a une passion un peu.
Grande passion.
Ça s'appelle payer plus cher les mêmes trucs.
Non, parapharmacie, c'est que t'as tous les autres produits qui sont pas du tout délivrés par un pharmacien. Et t'as toutes les crèmes, t'as tout.
Oui, mais que tu peux trouver dans un supermarché. Moins
non,
cher, non,
bah non, pas dans un supermarché. Il y a des marques que tu trouves qu'en parapharmacie.
Nux, les meilleurs.
Voilà.
T'as la liste.
La roche posée, tout ça. Voilà.
Non, mais par exemple, les mouchoirs en papier, c'est parapharmacie. C'est super cher dans une pharmacie.
Oui, mais j'achète pas ça. Okay. J'achète plutôt
les crèmes.
Des lotions, des choses comme
moi
ça.
Moi aussi, j'adore.
Bah les voilà. Clopes, ouais.
Et donc, en fait, le pharmacien, je le connais assez peu puisque je me soigne pas beaucoup. Enfin, je suis pas souvent malade.
Attention.
Non, mais c'est vrai, pour l'instant.
Oui. Je prends pas du magnésium.
Si, mais j'ai pas besoin du pharmacien. Ça,
tu rigoles, elle se shoot avec 10 000 trucs. Ouais.
Spiruline, chlorella.
Mais
je le fais toute seule.
Avec
Amazon, je sais où
tu vas l'acheter où ?
Amazon.
Mais j'ai pas besoin de pharmacien. Non, je l'achète en parapharmacie.
Tanguy ?
Alors, moi, je suis souvent en tournée, donc du coup, c'est plutôt les pharmacies des gares.
Magnifique.
Gare de l'Est, Gare du Nord. Et ce qui est bien, c'est que il y a souvent un vigile, en fait, dans ces pharmacies-là, quoi. Donc, je me sens en sécurité parce que j'aime bien.
C'est vrai qu'il y a des pharmacies qui, malheureusement...
Gare du Nord, Gare de l'Est, forcément, il y a un
vigile devant chaque... Place Clichy, c'est la...
Ouais. Donc plutôt
c'est la forteresse, Place Clichy.
Des mouchoirs en papier, du
gel hydroalcoolique...
Mais si, tous les trucs...
Et moi, des huiles essentielles, comme vous avez demandé.
J'arrive.
Et ben moi, c'est la pharmacie à côté de chez moi, et c'est plein de dames très cordiales, très gentilles, qui me souhaitent très gentiment, quoi que j'achète. Et ça, c'est beaucoup de pudeur, beaucoup de respect.
Mais donc, on est d'accord, il y a une espèce d'intimité qui s'est créée entre vous. Vous connaissez...
Voilà, évidemment, mais t'achètes des produits qui crée un peu de...
C'est sûr.
C'est sûr. Ça dépend ce que t'as, oui.
Ouais, mais tu dis que c'est pour un ami.
Ouais, mais ça, j'ai un copain qui a vraiment des problèmes de...
Hémorroïdes. Non, mais pour les yeux, sous les yeux, c'est...
Oui, c'est pour ça.
Ça fait quoi, les hémorroïdes sous les yeux ?
Longtemps.
Faut être souple, déjà.
Longtemps, des femmes ont mis des crèmes anti-hémorroïdes
sous les yeux.
Contre les poches, ouais. Les grosses, maintenant... Oui, c'est vasodilatateur, en fait.
D'accord, mais qu'est-ce qu'elles se mettent aux fesses ?
Faut du mascara. Faut du mascara, du...
C'est ça. Non, t'es bien maquillée.
Et alors, et vous, Valérie, quel rapport avez-vous avec votre pharmacienne ou pharmacien?
J'ai eu des rapports de super copines avec mes pharmaciennes. Là, j'ai déménagé de nouveau, j'ai des super copines et en fait, je sais pas, on discute, je reste très longtemps. On parle.
Et donc, vous êtes fidèle à votre pharmacie?
Oui.
Ok.
Et alors, on discute, on parle beaucoup.
Et vous, elle vous consulte, entre guillemets, si vous êtes pas, vous n'allez pas chez un docteur, vous allez voir la pharmacienne en disant, j'ai un petit truc là, qu'est-ce que vous avez pour me conseiller pour
Ouais, bien sûr.
Samir? Quoi? Huile essentielle, donc Samir.
Oui, les huiles essentielles. Mais après, j'ai pas forcément de
savoir.
Non, enfin si, j'en ai, je commence à être spécialiste en huile essentielle. Non,
c'est
mais
oui, c'est costaud les, de savoir que, enfin, je sais pas, combien de gouttes de quel.
Mais
c'est comme l'homéopathie, ouais.
Ouais, lesquelles.
Il y a plein de trucs en ligne.
Et vous faites quoi sur, les, sur votre poignet de, la, de la menthe.
Du Ravinsara.
Non, du Ravinsara, du Niaouli. Ou alors. Non, pas de la menthe.
Moi, je vais me recommander.
La menthe, je vais me l'eucalyptus quand on pousse, le thym quand on.
Il met de la menthe sous les yeux en même temps que sa crème anti-hémorroïde.
Bien pour les.
Pour les poches. Hémorroïdes.
Pour les hémorroïdes.
L'affaire Laura Stern, on va parler de cette formidable série qui connaît déjà un succès. Merci de venir en faire la promotion malgré ce succès annoncé. Il reste deux épisodes qui passeront sur France 2 et l'intégrale et qui est déjà sur France.tv. C'est une
co... 3 millions de vues,
je crois. Ouais, c'est énorme. C'est une, une copro avec HBO aussi, Max, si ma mémoire est bonne. Ce n'est pas une histoire vraie, mais ce sont plusieurs histoires vraies qui amènent cette création sur les violences faites aux femmes. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Hold de la Fan de Valérie Bonneton et de Samir Ghazmi. Ah.
Je suis fan de Valérie Bonneton, une comédienne qui sait toujours trouver le bon ton. Vous êtes du Nord et ça explique sûrement pourquoi vous avez explosé avec fait proche ti, fait proche moi. Je suis fan de Samir Ghazmi, un super comédien tout simplement exquis. Son nom est sur les lèvres de tous les gens du cinéma. Normal kiss me en anglais, ça veut dire embrasse-moi. Et vous êtes là ensemble pour l'affaire Laura Stern, un thriller dramatique qui est vraiment tout sauf Stern. David et Laura, c'est les gens que vous incarnez. David et Laura, je trouve ça joli à l'idée. Ouais, je suis fan de vos deux rôles, même dans ce drame. Le policier joué par Samir protège les femmes, mais les hommes aussi, et ça pour nous, ça tombe très bien. Depuis le retour de Nagui, Daniel ne va pas bien. Samir est fâché, ça le dérange, cette rumeur qui montre Nagui comme un ange, un sauveur. Mais Daniel qui est pas là, étrange, à 11h, il les a vus en plein échange de douceur. Hier mais depuis plus de nouvelles, stupeur, Nagui l'a plaqué comme un ange. Daniel se meurt et Ghazmi pourrait sauver la.
C'est très...
Et Daniel retrouverait le goût de Nagui, sans devoir remplacer ce besoin par Tanguy. Oh, c'est très beau.
C'est où?
Il est le sauveur.
C'est où? C'est vieux.
Non, pas du tout. Je suis fan de vous deux et de ce feuilleton. Samir nous donne la note, Valérie donne le ton. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Et dites-vous bien qu'il est sur scène, Hold de Laf, vendredi 13, ce vendredi donc à Brémal. À Bréal, c'est mal écrit. Et le 1er avril, au Polybergère.
C'est mal lu. Ça sera toujours de ta faute.
Non, regarde.
Une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles. 85% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Une femme sur dix est victime de violences conjugales. Et puis, on a ce chiffre affolant qui dit d'ailleurs dans la fiction, 300 femmes meurent tous les ans de violences sous les coups de leur mari ou de leur conjoint ou de leur ex, enfin d'histoire de vie privée,
ouais.
En tout cas. C'est absolument dingue et tout est là, mais ramené à une dimension humaine, à la dimension de cette pharmacienne que vous incarnez, qui a finalement deux métiers en un, celui d'une association qu'il y a dans le back-office de sa pharmacie, où elle reçoit des femmes victimes de violences.
Ouais, en fait, c'est un personnage très empathique, cette association, mais c'est un personnage...
Femme debout, c'est le nom de l'association.
Femme debout, mais ce n'est pas une femme misandre, elle ne répond pas à la haine des hommes par la haine, et c'est quelqu'un qui n'est pas dans les grands discours, mais qui agit,
qui est aimée par son mari, qui a ses deux enfants,
il n'y a aucun
problème personnel à la maison, mais elle fait un transfert de l'empathie sur la violence, en tout cas, que subit cette femme.
C'est-à-dire, elle est extrêmement engagée, et à partir du moment où elle va vivre de façon impuissante féminicide, elle bascule.
Alors c'est dans les premières minutes de l'épisode qui est d'ailleurs passé déjà hier sur France 2, donc on peut le dire, une réunion de plusieurs femmes dont une dit je ne veux plus revoir mon mari, je ne veux plus y aller, j'ai peur de lui. Et là vous appelez la police et
il campe devant la pharmacie
et la police ne fait rien. Oui, c'est ça. Et oui. Donc là vous dites on va sortir en bande, là nous toutes on va faire un clin d'œil aussi à cette association qui soutient la cause féminine. Nous toutes, on va y aller et là, on sera protégés. Mais malheureusement, le drame arrive.
Oui, ça questionne évidemment la justice, quoi, la mesure d'éloignement qui n'est pas respectée. Mais
la police qui a d'autres choses à faire, qui ne peut pas intervenir en disant mais qu'est-ce qui vous dit qu'il est dangereux? Qu'est-ce qui vous dit qu'il peut vous faire
exactement.
Du mal? Laissez-vous
en fait,
tranquille. Quoi,
en fait, c'est banal. Enfin, ouais, c'est ce qu'on vit tout le temps. Et en fait, ces féminicides, c'est devenu un peu... Je vais pas dire une sorte d'indifférence, mais en fait, c'est très banal. Donc, il fallait que ce sujet qui est très grave, il fallait que ce sujet soit assez radical. Mmh. Donc, il l'est par l'écriture quand même, parce que Frédéric Révin et Marie Kremer qui ont écrit, c'est à la fois très accessible, mais opaque, complexe. C'est ce qui m'a plu. Mais c'est surtout, enfin, aussi, la mise en scène qui est franchement démente, parce que les gens, enfin les retours que j'ai, moi, les gens vivent un choc. C'est-à-dire quand ils voient la série, il y a quelque chose de, ils sont face à une réalité qui est hallucinante et on vit le féminicide en direct. Oui. Quoi, c'est-à-dire que c'est une fiction et merci le service public, mais on amène cette fiction à quasi un documentaire.
Complètement.
Voilà.
Complètement.
Donc c'est la force vraiment
tellement bien joué, tellement bien interprété. Il y a tous les corps de notre société. Il y a la police, il y a la justice, il y a toutes les strates finalement par lesquelles on passe et tous les points de vue sont visibles, sont compréhensibles et on voit à quel point finalement on ne parle pas beaucoup. Des violences faites aux femmes, ou en tout cas quand on en entend parler, on veut pas s'en mêler, c'est la vie des autres, c'est le voisin, c'est la voisine.
Et oui, là ça questionne sur la responsabilité de chacun, c'est sûr.
Ça questionne sur l'emprise aussi n'est pas
psychologique, c'est-à-dire qu'on parle des violences physiques mais pas psychologiques, c'est à partir de quel moment c'est pas normal ce qu'on vit. Donc c'est sûr que voilà,
ça laisse pas de trace, voilà.
Exactement, quand il y a pas de bleu, quand il y a pas de coup, en fait, on se dit à quel moment est-ce que je suis folle, est-ce que c'est moi, est-ce que comme il dit, exactement comme le raconte la série.
Et des profils de femmes différents, c'est-à-dire que oui. c'est l'égalité pour le coup. Là, on l'atteint. C'est quelle que soit l'extraction sociale, eh bien toutes les femmes sont victimes.
Bah, malheureusement, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on sait qu'une femme sur trois a été ou sera touchée par les violences.
Ouais, qu'elle appartienne à un milieu CSP+, ou pas du tout.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et au milieu donc de ces rencontres, parce qu'il y a plusieurs portraits de femmes, plusieurs situations, plusieurs cas, justement, harcèlement psychologique, viol des enfants avec des menaces du mari qui poursuit la femme jusque devant la pharmacie. Le fait d'ailleurs en plus qu'il y ait cette association Femmes Debout au sein de la pharmacie, dès l'instant où quelqu'un tape sur un moteur de recherche le nom de la pharmacie, il voit que donc sa femme ou sa fiancée est allée porter plainte ou en tout cas demande de l'aide. Donc là, il y a une suspicion supplémentaire qui s'installe, une tension, une électricité supplémentaire. Que fait la police? C'est ce qu'on vous demande, Samir, puisque vous incarnez la police. Et la police gentille, pas la police qui raccroche en disant « Oh, écoutez, il n'y a pas eu d'agression, salut ». Non, vous vous sentez concerné, mais quand même aussi impuissant devant les mécanismes.
Bah oui, impuissant, et puis surtout le policier que j'incarne, David, ce qu'il a à offrir à l'instant T avec c'est une écoute en fait, c'est juste accueillir ce témoignage, l'écouter, pas le juger, non seulement pas le juger mais le croire. Et d'abord ça commence par ça, et puis ensuite c'est particulier parce que David, il va être cueilli, il va tomber amoureux de Laura,
et vice versa,
donc ça va un peu dévier, il va déroger à ses limites de policier, c'est-à-dire qu'il veut, enfin il s'agit pas de dévoiler non plus, mais Ouais, il va passer les bornes. En fait, il va autoriser.
Sans spoiler la fin, l'histoire est entre guillemets est complète. Il y a un début, une fin très très précise, avec les premiers atermoiements, les premiers doutes autour de certaines violences faites aux femmes, la manière dont elles sont prises en charge par cette pharmacienne, l'enquête policière qui se fait en parallèle, puis la justice qui s'en mêle, puis un procès qui va avoir lieu, où là, on va entendre les deux parties, entre guillemets, se défendre avec ce que l'on dit, c'est-à-dire comment définir l'emprise, comment ne pas être attendri devant une photo d'enfant, mais regardez, qui peut faire du mal, regardez cet enfant comme il est merveilleux, comme il peut faire du mal, la manière même dont quelqu'un est défendu par un avocat ou une avocate en se disant, mais est-ce que c'est la bonne personne qui va me défendre, est-ce que je dois faire croire à la légitime défense, parce que c'est aussi la manière de sauver sa peau si c'est l'affaire de Jacqueline Sauvage, aussi qui a été graciée par le président de la République de l'époque, c'est-à-dire qui était victime des violences de son mari, qui a tué son mari et qui a été condamné pour l'avoir tué pour meurtre. Donc là, la question c'était, mais la justice l'a condamné, la met en prison, alors que si c'est pas elle qui le tuait, c'est elle qui était morte. Et c'est que la présidence de la République a pu le... Je crois que c'était Hollande à l'époque qui l'a sauvé. Donc on a tout ce spectre-là de possible.
C'est une série qui questionne vraiment, quoi.
Non, mais je veux dire, en quatre épisodes, on voit plusieurs vies même se dérouler.
Le droit d'ingérence, quoi. Comment est-ce qu'on peut se mêler, etc. Mais donc, on se pose tous la question. En tout cas, les gens qui... les retours qui regardent la série sont en choc et se questionnent beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu les féminicides comme ça, de cette manière-là. Parce qu'il y a un peu les clichés de la femme recouverte avec le scotch orange dans les polars, dans les thrillers. Et là, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu, en fait, vraiment.
Non, mais comment filmer la violence psychologique ? Ouais, c'est ça. Et puis surtout, comment ne pas avoir envie de se venger ? C'est-à-dire que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, la peine de mort, toutes ces questions sont posées aussi. Et de quel droit ?
Pas de vengeance, je vois pas.
Non, mais la question est posée sur êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un décide de tuer pour protéger une femme victime de...
Elle veut surtout sauver une femme, en fait. Oui. Elle veut sauver une femme, elle veut pas tuer un homme.
Non, mais je fais pas le procès, je raconte ce qui se passe.
Faites le procès.
Non, loin de moi l'idée de faire ça. En plus, c'est un hommage que la série rend aux pharmaciennes aussi, qui pendant la période du Covid était le seul point d'alerte possible pour les femmes qui étaient en prison pendant le Covid, pendant ce confinement, avec des hommes qui les violentaient, et les pharmaciennes, les pharmaciens en tout cas, étaient à l'écoute.
C'est juste que ce soit du point de vue de cette femme ordinaire qui est... Parce qu'on s'identifie, parce que c'est une pharmacienne et on peut se confier. C'est vrai qu'on se confie beaucoup à la pharmacie.
Vous pensez que cette série, au-delà de montrer la réalité et d'être une véritable tension, parce que c'est un thriller aussi, c'est-à-dire
il y a une tension.
On peut se retrouver comme dans 12 hommes en colère avec les procès, en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer pendant que les jurés vont se retirer pour décider de la culpabilité ou pas d'une femme qui s'est protégée ou qui a protégé les autres en passant à l'acte, c'est-à-dire en tuant. Comment la société analyse et réagit face à ces violences faites aux femmes, et encore une fois, 300 femmes mortes par an, enfin je dirais pas une par jour, il y a un moment, il faut se dire, il y a un truc qui va pas.
Évidemment qu'on se rend compte que c'est le système qui va pas, c'est notre société, c'est sûr. C'est ce système patriarcal qui est encore très profondément ancré, même si, moi-même, en tournant cette série, je me disais, pourquoi moi ? Mais ça m'a énormément remué.
Pourquoi vous dites pourquoi moi ? Pour le jouer ?
Oui, parce que c'est quand même pas attendu. Comme d'ailleurs c'est la force d'Hakim, c'est-à-dire de réunir un casting qui est hallucinant parce que ce sont pas des actrices. Donc j'ai jamais vécu un tournage comme ça, moi. C'est-à-dire c'était, il y avait pas de jeu ni.
Mais cette question du pourquoi moi, vous la posez chaque fois qu'on vous propose un rôle ?
Non.
Celui-là en particulier ?
Oui, celui-là en particulier.
D'accord. Parce qu'il avait un écho par différent des
autres. Non, il a senti des choses en moi, sans doute. Et c'est vrai que quand on me dit comment j'ai travaillé ce rôle, on peut pas se préparer à la violence. Donc je ne sais pas, en fait. Mais je pense que c'est le rôle qui m'a travaillé et qui a révélé plein de choses enfouies, forcément, quoi. C'est-à-dire que ça m'a bien, sur le tournage,
cassé,
bien cassé. Mais ensuite, des mois après, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et sur... bah, sur le déni, tout simplement, qu'on a toutes. C'est-à-dire, on dit qu'on est engagé, l'association, la Fondation des femmes, moi, j'ai souvent été là, mais en réalité, pas
tant que
ça.
On rappelle le 3919, le numéro de téléphone qui
permet... Mais en réalité, est-ce qu'on est vraiment engagé? Est-ce que, vraiment, on se dit, on fait quelque chose? Est-ce que... C'est les questions que je me suis posées, quoi. Dans un certain déni, je crois être libre, indépendante, forte, mais est-ce que je fais vraiment les choses? Est-ce que j'éduque vraiment la même manière ma fille, mon garçon? Je suis pas sûre, en fait. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, je me suis rendu compte que j'étais dans une forme de déni, que j'ai beaucoup accepté de choses que je n'accepterai plus jamais.
Donc c'est une série qui vous a transformé, mais je pense qu'il va toucher et transformer aussi tous ceux et toutes celles qui l'ont vu et qui l'ont déjà vu, parce que encore
c'est
une fois, ça se compte,
des gens,
ça se compte en millions. Ouais. Voilà.
Et puis ça interroge sur, on le voit dans la série, les peines que prennent ces hommes-là quand la justice intervient et le nombre de fois où les femmes se sont manifestées auprès de la police avant qu'elles se fassent tuer. En fait,
mais
c'est aussi ça où on se dit que dans notre capacité à observer les choses sans rien faire, c'est aussi se dire à quel moment nous on se mobilise pour dire c'est pas normal qu'à partir du moment où elle a déjà alerté, ça se solde par un féminicide.
Bah là on en parle comme ça facilement, mais c'est terriblement choquant parce que par exemple en Espagne, les femmes se sont mobilisées en permanence, tout le temps, et les choses ont changé, elles sont bien plus en avance que nous. Nous on est quand même en retard, donc y a un gros boulot.
Cette série parle de l'indignation face à l'insupportable, évidemment, et du système, de la manière dont les choses sont faites, peut-être avec des lois archaïques, patriarcales, et qui sont dépassées, qui devraient un tout petit peu mieux comprendre l'état actuel dans lequel on se trouve. En tout cas, c'est une réussite, c'est sur France 2.
Non, ce que je voudrais dire, c'est que, pardon, ce système-là, en fait, ferait du bien à tout le monde, aux hommes en premier, parce que c'est quand même lourd pour les gamins de 20 ans de porter l'espèce de domination, chef de famille, etc. C'est, voilà.
L'affaire Laura Stern, c'est sur France.tv, bientôt sur... sur HBO Max, c'est déjà passé sur HBO Max et sur France.tv, l'intégrale. Et c'est la semaine prochaine, évidemment, jeudi soir, sur France 2, mercredi soir sur France 2, je vais y arriver. Voici Bruno Pecky.
Oui. Bravo.
Vous, Bruno, vous n'auriez pas fait une série comme ça sur les violences faites aux femmes?
Ah bah alors là. Une série qui parle de féminicide, de violence conjugale et de sororité. Mais évidemment que j'aurais pas fait comme ça. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner ma vision d'homme hétérosexuel de base, histoire que vous puissiez faire une meilleure saison 2. Je suis désolé de vous dire comme ça, mais clairement, c'est un problème de sujet. Voilà, la série évoque quand même cette chose que personnellement, je trouve absolument sans intérêt. Et je parle bien sûr de la pharmacie, voilà, de son monde, de son code et même de ses blouses. Vous croyez quoi? Que j'allais faire du mansplaining sur les violences conjugales?
Non.
J'ai pas encore de carrière, ce serait con de me faire cancel avant de ça. J'ai demandé conseil à des spécialistes et lu la notice d'emballage. Ah bah, avec une série pareille, faire des blagues sans tomber dans la facilité ou le sexisme, il me reste une marge de manœuvre tellement petite, j'ai l'impression de faire un créneau impossible. Mais vous inquiétez pas, je vais réussir à le faire. Vu que je suis un homme.
Voilà.
Pas du tout. En plus, je suis devenu un beau parisien. Il n'y a plus qu'un Vélib que je sais garer, quoi. Donc, allons-y pour une chronique sur la pharmacie. Voilà. Est-ce que vous aussi, quand vous allez à la pharmacie, vous voulez poser votre question pas trop fort, pour pas que les gens entendent, parce que c'est gênant, mais pas non plus chuchoter trop doucement, pour pas que les gens imaginent que ce que vous avez, c'est vraiment horrible, quoi. Donc, finissez par dire beaucoup trop fort. Vous avez de la crème pour les hémorroïdes? Alors qu'en fait, à la base, vous venez pour un spray pour le rhume. Ok, c'est que moi qui perds ses moyens dans une pharmacie, très bien. Bon bah très bien, je vais arrêter les blagues sur ce sujet. Même si, en étant suisse, j'ai un sérieux problème avec les pharmacies aux États-Unis. Parce qu'elles ont inversé le symbole de la Croix-Rouge pour en faire un symbole médical, alors qu'à la base, c'est notre drapeau. Ouais, je suis désolé, hein, mais je trouve qu'en ce moment, on parle pas assez de cette violation du droit international de la part des États-Unis. C'est clairement la pire. Parlons-en de cette série qui permet de briser le silence autour des violences conjugales. Alors oui, elle peut choquer ou heurter, mais ce qui fait vraiment mal, ça reste les violences des hommes, avec un petit H. Et puisque une femme sur 10 est victime de violences conjugales au cours de sa vie, petit message aux auditrices qui sont concernées. Sachez mesdames que vous n'êtes pas folles, parano et encore moins seules, donc n'hésitez pas à appeler le 3919 ou à aller dans une pharmacie. On y trouve des crèmes, et pas que celles dans des petits tubes, ou si celles derrière le comptoir qui peuvent se transformer en ange gardien, comme vous faites si bien dans la série Valérie Bonneton. Et si j'étais un peu lâche car j'avais pas à faire des blagues sur un sujet qui me fait autant peu rire que les violences conjugales, je me console en me disant que je le suis beaucoup moins que tous ces hommes qui utilisent la violence pour soumettre, dominer, faire taire, se défouler, ou n'importe quelle raison. Sachez messieurs que la violence n'est pas une fatalité et qu'il existe aussi des associations pour vous aider et pour réparer ce qui va pas chez vous au lieu de propager les dégâts autour de vous. Ceci étant dit, J'ai quand même hâte de la saison 2, voilà, et que vous reveniez tous les deux nous en parler. Vous m'en voudrez pas, par contre, je pense que ce jour-là, je laisserai quelqu'un d'autre faire des blagues à ma place, parce que moi, j'y arrive vraiment pas.
Merci, bravo.
Pas facile, Bruno. Et tu seras sur scène le 21 mars au Point Virgule à Paris, Bruno.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème. Justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car
Suzanne, je t'accuse, c'est ce qu'elle dit à la justice aussi. Elle est sublime, cette chanson.
Tellement bouleversante.
Comme si elle avait été écrite en même temps que la série. Elle va bien, elle colle bien.
Elle commence, elle clôt la série, et c'est bouleversant. Ouais.
Avec autour de vous Valérie Bonneton, Samir Ghazemi, Pauline Parigot qui joue donc cette femme qui n'est pas physiquement menacée mais psychologiquement menacée. Et c'est là où ça devient très compliqué parce qu'évidemment, comment faire une enquête policière quand il n'y a pas de traces, quand il n'y a pas de preuves, à part un enregistrement qui revient dans l'enquête. Mais est-ce que ça suffit pour dire que sa vie était menacée? C'est toute la question que pose la série.
Déjà les plaintes physiques c'est extrêmement compliqué, donc les plaintes psychologiques c'est quasiment impossible.
Et pourtant, on en parlait dans cette émission en parlant du crime parfait, en disant mais ceux qui finalement poussent au suicide. Psychologiquement,
il y a
aucune empreinte, il y a aucune arme de crime, il y a rien du tout. Ouais. Et c'est entre guillemets même ce qu'il dit dans la série par son mari. Hein.
C'est la pire des tortures et c'est malheureusement très fréquent que des femmes vivent dans la peur, dans la terreur. Donc comment aller porter plainte quoi quand on vit comme ça? Et moi, ce que j'espère, c'est que certaines femmes qui vivent dans cette situation-là, regarderont la série, se diront « Ok, ça ressemble à quelque chose dans ma vie, c'est pas normal ce que je vis, et je vais agir, quoi, de décider, de choisir sa vie. » C'est le plus important.
Voilà. D'avoir quelqu'un à côté qui vous dit que c'est pas normal, parce que c'est ça en fait.
C'est ça.
Elle doute, ces personnages.
Et souvent, il y a une immense solitude.
Ouais.
Donc, cette série raconte aussi qu'on n'est pas seul. Mm. Il y a des associations. Quand on arrive dans les associations, elles disent on vous croit.
Oui.
On vous croit. Mm. Et quand on va au commissariat, on sait que c'est pas le cas. Donc, c'est très très compliqué.
À côté de vous donc et de Pauline Parigot, il y a Rim Foglia, Pascal Rénéric, Yannick Régnier, Marie-Sophie Ferdan, Eva Huot, Darren Muselet et Catherine Amé.
Je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse.
Cette pharmacienne se fait presque peur à elle-même quand elle se rend compte de quoi elle est capable. C'est-à-dire elle est à la fois totalement affolée par la vérité, les violences qu'elle voit autour d'elle, et puis d'un moment elle se rend compte que elle peut rentrer dans le jeu. C'est pas un jeu, mais enfin elle peut rentrer dans l'histoire, s'en mêler, les protéger, et tant pis pour elle. Elle pense même pas à elle.
Non, elle pense pas à elle. Enfin, elle me fait penser, au personnage d'Antigone. C'est un personnage sacrifié, quoi, qui est au-delà de tout. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire autrement. Mmh. Alors, ce qu'on se disait avec le réalisateur, on ne sait pas si elle va aller jusque-là. Je vais pas raconter l'histoire, mais.
Est-ce qu'elle va pas substituer la justice d'une façon, ouais.
En tout cas,
parce qu'elle est manquante.
En tout cas, non. Mais on peut dire comme les deux premiers épisodes sont déjà passés mercredi hier soir. Et puis encore une fois, des millions de gens ont vu les quatre épisodes sur les plateformes. Elle se rend compte pour protéger une de ses femmes qu'il y a un accident. L'agresseur tombe à la renverse dans une espèce de fossé, se fait le coup du lapin, peu importe. Enfin bref, il meurt. C'est un accident, mais elle se rend compte que finalement cet accident est synonyme de liberté pour la femme qui se faisait frapper.
Exactement, c'est toute la question, c'est-à-dire que et elle va continuer sur ce chemin-là, quoi, avec la prochaine en fait. Mmh. Pour elle, elle représente vraiment l'insupportable et l'inacceptable de ce système. C'est exactement ça.
Et les arcanes de la justice, la manière dont les procès... Alors c'est toujours passionnant de voir... c'est vraiment un objet de fiction. Hein. Je parlais de 12 hommes en colère, mais c'est vraiment... On est dans une sorte de huis clos, avec des codes bien précis, de position, de regard, de lumière,
mais presque un
tension.
Documentaire, c'est ça qui est fort. Mais c'est surtout la force du casting, quoi, parce que... C'est vraiment la première fois, moi, que j'arrive. On est allé d'abord rencontrer ces femmes dans les associations. Et tout de suite, un lien, on s'est créé tout de suite, on s'est rencontrés, donc ça a été extrêmement fort. Et puis, ça nous a pas quittés, c'est-à-dire qu'entre les prises et pendant les prises. Et ça, ça a été vraiment fabuleux, parce qu'il n'y a pas d'acteurs connus, etc., qui fait qu'on est dans l'histoire. Moi, j'étais en immersion totale du début à la fin.
Mais il n'y a pas d'acteurs, même, j'ai envie de dire. En fait, c'était assez particulier, moi. J'ai eu beaucoup le trac avant d'arriver le premier jour sur le tournage, parce que... Je sentais, c'était pas compliqué, que le sujet était grave, que c'était pas une histoire comme j'ai eu l'habitude de faire. C'est vraiment, tout d'un coup, je me retrouve face à des femmes dont la réalité dépasse la fiction pour le coup. Elles ne jouent pas. Toi, t'es face à elles. Il s'agit pas de faire le malin, de faire l'acteur ou je sais pas quoi. Et tout d'un coup, les paroles que t'entends, c'est pas des dialogues écrits, c'est forcément des dialogues écrits, mais c'est une réalité. Mm. Et toi, tu te dis, bah alors, il se passe quoi là? Qu'est-ce que je fais? Comment je joue? Comment j'accueille?
C'est ça.
Et c'est ce fil sur lequel Hakim nous a tous mis. Et je dois avouer qu'on n'a pas fait 40 prises, hein, je me souviens très bien. Notamment une femme que je prends dans les bras, à qui je viens expliquer comment on fait du self-défense. Elle me regarde, elle est bouleversée. Et elle joue pas, en fait. Et toi, forcément, tu joues pas. Et t'es dans un endroit de jeu, enfin de jeu entre guillemets, que constamment je recherche, moi, comme acteur, en fait, finalement.
Juste à se laisser porter, à écouter. Et puis, de toute façon, c'est ça, on peut pas se préparer à la violence, quoi, c'est impossible. Non.
Est-ce que ça vous a, vous aussi, bouleversé, cette série, comme nous qui l'avons vue, mais vous, Samir, qui l'avez joué, qui l'avez lu avant, vous n'êtes plus exactement le même qu'avant de lire le texte de Marie Kremer et Frédéric Rivine ?
Moi, je l'ai vu dans... Hakim, le réalisateur, me l'a envoyé en lien, et je l'ai vu dans mon ordinateur, j'étais en voyage très loin, et dans ma chambre d'hôtel, et j'étais dans un état où il fallait pas me voir. J'étais tout seul avec l'écran, et j'ai appelé Hakim dans le quart d'heure, et lui dire à quel point le travail qu'il a fait m'a bouleversé, en fait. Et bah oui, forcément, parce que forcément, ça nous change, parce que... Enfin, ça nous change. Ouais, enfin, t'entends encore plus... c'est plus concret, une détresse... féminine, c'est plus comment dire, je réalisais pas qu'on pouvait aller jusque là. Enfin, j'ai vu des corps abîmés dans le film, j'ai vu des situations que je ne connaissais pas, enfin que on en a entendu parler, mais que j'avais jamais vu, en fait.
Hakim Isker, hein, le réalisateur Isker. Brillant, on dit Isker.
Non, Isker. C'est ça,
Isker. Ah, Isker. Non, Isker.
Avec cette série qui a eu le prix au Festival de la Fiction de la meilleure série drama 2025, le prix d'interprétation Creative TV, et le prix de la meilleure série également, et puis surtout le prix, j'ai envie de dire, du public, quand on voit les millions de gens qui l'ont vu. Ça passe mercredi prochain sur France 2.
Je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse.
Et je rappelle que l'intégrale des 4 épisodes sont encore visibles, évidemment, sur la plateforme France.tv. Voici Julie Conti.
Bravo.
Bonjour tout le monde.
Hello.
Bonjour, c'est la journée mondiale de lutte contre l'islamophobie. Joyeuse fête en avance à tous les musulmans. Ouais, ça c'est aussi con que nous souhaiter une bonne fête des femmes le 8 mars. Nagui, Leïla, je connais rien de vos croyances, mais scoop pour les islamophobes, vous êtes musulmans, c'est sûr. Hein.
Oui.
Pour eux, un teint un peu olive, un prénom qui n'est pas dans le calendrier des saints, les islamistes. Hein. Ça n'existe pas la Saint-Nagui, non?
Non.
Et comment on fêterait ça? Tout le monde présenterait 8 heures d'émission en une journée avec des pompes à paillettes.
Chez CNews le 15 mars. Chez CNews le 15 mars. Du coup, ben, ils vont tous poser le RTT en même temps, quoi. S'ils peuvent pas vomir sur les musulmans, ils sont tous en chômage technique, quoi. T'imagines le patron éditorial de la chaîne? Car ouais, on dirait pas, mais il y en a un, hein. Thomas Baudet, un mec charmant, condamné en première instance fin janvier à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur ses enfants, hein. Très belle personne. Bref. Tu l'imagines, il regarde son antenne le 15 mars. Bah, du coup, l'heure des pros, on peut pas. L'heure des pros 2, non plus. 100% frontière, laisse tomber. Face à l'info avec Christine Kelly, j'en parle même pas. Face à Michel Onfray, c'est grillé. Putain, on peut même plus faire 24 heures de Morandini live, hein. Bah, on va mettre la mire et on se retrouve demain, les amis, hein. Alors, j'avais peur de pas être légitime pour traiter ce sujet parce que je suis ni musulmane, ni islamophobe. Du coup, pour avoir une vraie expertise sur le thème, j'ai écrit cette chronique avec Yacine, mon pote humoriste musulman. Et j'aurais bien aussi voulu avoir l'avis d'un humoriste islamophobe, mais Sophia Aram, parce que l'un. C'est dommage. Pour info, cette journée mondiale de lutte contre l'islamophobie a été instaurée en 2022 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ça fait donc que 4 ans qu'on s'est décidé à lutter contre ce problème. Par comparaison, la journée des droits de l'homme, ça date de 1950. La journée mondiale des abeilles, ça date de 2018. Et même la journée mondiale des légumineuses, ça date de 2019. On s'est préoccupé des pois chiches avant les musulmans, les gars. Et selon l'IFOP, en 2025, les actes islamophobes ont augmenté de près de 80%. Bon, alors pour le pinard, je sais pas, mais pour l'islamophobie, 2025, c'est une belle cuvée, hein. Et comme c'est la saison des récompenses, je me suis dit qu'on aurait pu imaginer un nouveau prix, l'islamophobie d'or. Beaucoup de nommés cette année, beaucoup de nommés. Mais en fait, un prix pour le meilleur islamophobe de France, ça existe déjà, ça s'appelle un contrat d'édition chez Fayard. Ou une... Alors, bonne nouvelle quand même, l'IFOP souligne qu'en termes d'islamophobie, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, au moins, nos islamophobes, ils sont pas sexistes. Il faut aussi souligner leurs accomplissements. Hein. En novembre dernier, un groupe de travail des sénateurs Les Républicains a remis un rapport de 17 recommandations sur les musulmans en France. Alors, je vais pas lister les recommandations du rapport, parce que nos auditeurs auditrices sont peut-être en train de manger et que ça peut leur rester sur le vide. Mais dans les recours, on retrouvait la mini-obsession bien française autour du voile. Hein. Ils ont proposé d'interdire le port du voile pour les mineurs de moins de 16 ans, pour les accompagnatrices scolaires et même lors des compétitions de sport et en club. Et ils viennent nous dire que c'est pour protéger le droit des femmes. Mais arrêtez, on nous la fait pas à nous. Mais si, on est féministes, on déteste les Arabes encore plus que les femmes. Le rapport recommandait aussi d'interdire la pratique du ramadan pour les mineurs de moins de 16 ans. Mais en vrai, comment ils pensaient mettre ça en application, quoi? Il y aurait des fachos qui font l'avion avec la fourchette devant la bouche de tous les petits musulmans, hein. J'imagine Éric Zemmour. Allez, Kader, ouvre grand la bouche. Il y a l'avion qui va rentrer dans le World Trade Center. Les mesures proposées par les sénateurs LR, elles sont anticonstitutionnelles parce qu'elles visent une religion en particulier. Pour qu'elles passent, ils auraient dû proposer des recommandations applicables à n'importe quelle religion. Au lieu d'interdire le ramadan pour les moins de 16 ans, bah, il fallait interdire le jeûne intermittent pour les enfants. Là, ça passe. Au lieu d'interdire le voile, interdire les signes religieux sans distinction de culte. Genre, même la petite Marie Clotilde ne pourrait plus porter de serre-tête en sortant du catéchisme. Oui, on stigmatise, d'accord, mais on stigmatise malin. Hein. Enfin, rappel, le racisme anti-musulman tue. Le 6 janvier 2026, le corps sans vie d'Ismaël Ahali, jeune homme de 20 ans d'origine maghrébine, a été retrouvé dans un étang. Deux jours plus tard, la presse locale annonce que la piste du crime raciste est envisagée par la justice. Mais là, pas d'emballement médiatique. Et combien de minutes de silence à l'Assemblée? Zéro. Walou. Walou, terme berbère. Mais en vrai, pas besoin de minutes de silence. Parce que pour ce qui est du silence concernant la haine islamophobe en France, on a déjà bien pris de l'avance. Bravo.
Hey, c'est bien le petit silence à la fin.
Ouais. Et tu es sur scène, Julie Conti. Alors on va te retrouver le 22 avril à Tignes, le 24 avril à Biarritz, le 25 avril à Toulouse et le 12 mai au Point Virgule à Paris.
Dans quelques instants, nous allons recevoir Zoé Royot, qui est avocate pénaliste, cofondatrice et porte-parole de la Fondation des Femmes, pour savoir ce que la loi dit en matière de violence conjugale et s'il faudrait peut-être des juges spécialisés si certains ne font que appliquer bêtement la loi en disant vous parlez d'emprise, parce qu'il y a, je sais pas si c'est l'avocat ou le procureur général qui répond à une pendant les débats en disant ah l'emprise,
oui, oui.
Genre okay,
le mot magique.
Allez, sortez-moi ça encore une fois.
C'est ça. Voilà. Bah oui, bien sûr, c'est très facile.
Ça dit l'incapacité à comprendre.
Ben oui,
c'est ça. Les mécanismes.
Y a croire. Ouais. Tout de suite.
La musique est très présente dans cette série.
Je t'accuse. Ouais. C'est Éric Neveu.
Alors, Éric Neveu fait cette musique-là.
Éric, non, ça c'est Suzanne, mais Éric Neveu a fait la musique du film, elle contribue aussi.
C'est pour ça que j'ai dit Éric Neveu fait cette musique-là, d'accord, en passant la musique d'Éric Neveu, celle-ci.
Voilà.
Où on est dans une tension.
Ouais.
Et dans une émotion.
La musique est excellente.
Et sinon, il y a ce succès de Suzanne.
Je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse.
La musique dans vos vies en 90-91, Valérie Bonneton, vous écoutiez.
Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête.
C'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Bagnolet.
Ça vous va bien la voix?
Ouais, c'est barré.
Ah ouais, elle vous va bien cette chanson?
Hein,
vous devriez la chanter. Ah ouais, vous chantez ça.
Ouais.
Une chanson joyeuse de Barbara.
Ouais, une chanson joyeuse, elle est rare. Hein,
souvent, on se dit, ah, Barbara, ça va.
Ouais. Ouais. J'adorais cette chanson. Je me souviens qu'il fallait chanter une chanson contre Florent. J'avais choisi celle-là et voilà.
Et ça avait fonctionné?
Ouais, ça avait fonctionné.
Justement, dans ces années-là, Valérie, vous débarquez à Paris, vous êtes reçue au conservatoire.
Oui.
On avait évoqué comment vous vous retrouviez dans une petite chambre de bonne enchaînant les boulots.
Ouais, des tonnes de petits boulots pour payer tout, les cours Florent qui coûtaient très cher. Mais voilà, mais que des souvenirs hyper joyeux, très, très heureux. Voilà, mais le bonheur, en fait, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, d'être libre, ouais, cette liberté.
Avec des débuts sur scène, avec des vitesses, des hustères, des planchons.
Oui, des petits rôles, des petites choses comme ça, mais qui étaient fascinantes. Puis surtout, j'ai fait la figuration à la Comédie Française. Alors là, on apprend tout, parce qu'on est avec Catherine Samy, Roland Bertin, de grands acteurs, des metteurs en scène, Georges Streller. J'étais fascinée, quoi.
Toujours dans les années 90, Samir Ghazmi, lui, en pleine émotion. Écoutez. Snoop Dogg. Deux ambiances.
Mais j'imagine tout de suite une sorte de grosse fumée.
Parce qu'il fait des crêpes.
Parce qu'il aime bien cuisiner. Voilà. À la vapeur. Cuisson douce.
Non, mais c'est un son nouveau. Assez...
Le micro, Samir.
Oui, pardon. Non, mais j'ai aucune allusion à ce que vous racontiez. Non,
il se passait quoi en 90?
Le rêve du rat.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que le rêve du rat?
C'est une pièce divertée. C'était ma première pièce de théâtre, mon premier engagement au théâtre des quartiers d'Ivry. J'avais 3 ou 4 mois de cours et que le metteur en scène m'embauche et je me retrouve sur scène à jouer le rêve du rat. Un révolutionnaire italien sur son scooter, j'arrivais sur scène.
Vous dites que vous soupçonnez votre prof d'avoir vu en vous un individu bizarre, étonnant, un peu décalé.
Ah, j'avais dit ça?
Ouais.
Ah oui, sûrement. J'avais un gros cheveu sur la langue, j'étais un peu les pieds en dedans, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, on riait. Je comprenais pas pourquoi. Et oui, il m'a légitimé en fait. Il m'a dit que la scène, je pouvais être là, quoi.
Enfin, elle vous a soigné cette scène?
Elle m'a soigné, ouais. Mais après, ma pudeur va me faire arrêter là. Mais oui, elle m'a. Oui, c'est incroyable. Moi, j'invite tous les gamins, tous les ados, tous les adultes à faire du théâtre, à passer sur scène, à avoir un texte, à dire un texte, à être regardé et passer le relais. Et je trouve qu'il y a une thérapie de jeu incroyable que de se voir un peu nu et que tout le monde se voit nu. Et j'ai l'impression que ça change, ouais, ça change la vie, quoi.
2007-2008, Valérie Bonneton, vous écoutiez.
Petite princesse, ma beauté, ma promesse, ma petite faiblesse, ma plus belle histoire de fesses, dans la Mercedes, c'est de l'espoir que je caresse.
La Marco Benz de Benjamin Biolay, Leïla, il se passe quoi dans la vie, Valérie?
Et fais pas ci, fais pas ça.
Oui, et fais pas ci, fais pas ça.
Attends! Voilà.
Très bien.
Rôle que vous avez.
Vous faites pas très bien en fait.
C'est pour ça que je suis pas acteur.
Hein,
c'est un rôle que vous avez décliné au début.
Oui. Non mais c'est à dire que je travaillais pas. Je faisais 2 jours de tournage par-ci par-là. J'avais décidé d'arrêter parce que je me suis dit j'ai envie d'être heureuse avant d'être actrice. Voilà. Donc voilà. Et puis est arrivée cette série. Et puis je me suis dit non pas de télé. J'avais fait le conservatoire. Je voulais faire du théâtre et tout. Et puis finalement j'ai fini par lire et oui je voulais pas faire ce rôle. Je voulais faire l'autre rôle. Enfin je sais pas comment ça s'est. Et finalement voilà c'était Fabienne Lepic. Oui. Anne Jaffery avait pensé à moi. La avait écrit pour ce rôle pour moi. Donc je me suis dit, bon, eh bien, on verra bien. Et puis c'est bien parce que quand on s'approprie complètement les personnages, en fait, on est libre. Donc c'est ce que j'ai fait, quoi. Parce que de part, c'est un personnage coincé. J'en ai fait une cinglée un peu.
C'est une école de la patience, en fait, comédien. À un moment où vous voulez arrêter, le rôle arrive.
Oui, c'est ça. Bah, souvent, c'est peut-être souvent comme ça. Quand on lâche, les choses arrivent. Quand on lâche,
vous auriez fait quoi si...
Oh, c'est quelque chose de très créatif. En tout cas, j'étais en train de coudre des vêtements pour mon bébé. Je me suis dit, je vais faire ça. J'adorais, je m'éclatais. J'achetais des tonnes de tissus. Chez moi, c'était qu'il y en a partout.
Et ça ne vous a pas empêché d'avoir un Molière pour la pièce de Yasmina Reza?
Yasmina Reza avec Isabelle Huppert. Oui, j'étais très heureuse. Oui, toujours bien. Petite récompense, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir.
Non mais vous dites, j'avais envie de faire du théâtre et pas de la télé, l'un n'a pas empêché l'autre.
Oui, bah j'ai toujours, voilà, fait du théâtre, encore des projets de théâtre, le théâtre, la télé, le cinéma.
Le regard des votants n'en a pas été déformé, c'est ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, ce qui a sûrement existé à un moment donné, ce côté méprisant pour les actrices ou les acteurs qui font de la télé par rapport à ceux qui font du théâtre.
Non, c'est fini. C'est vrai qu'au départ...
Les chapelles, ouais.
Ouais, c'est terminé. Moi, j'ai toujours pensé, peu importe le support, quoi, si le texte...
Bien, surtout,
on s'en fiche, exactement.
Samir, Yasmine, vous écoutiez, vous? On est passé de la Mercobenz à Joe Star, vous êtes fait pour être ensemble, hein, franchement, trop fort. Il se passait quoi, Leïla, pour Samir Ghazmi à ce moment-là? On est en 2007-2008.
Beaucoup de choses. Cash, d'Éric Bénard avec Jean Dujardin, Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, et puis aussi des séries, plein de choses d'univers très très différents.
Ah oui, mais je pensais que vous alliez me parler d'Othello parce que j'écoutais. Je sais pas, ouais. J'écoutais beaucoup Metec quand
c'est comme il y a tellement de choses, ouais, on pourrait parler d'Othello.
Othello, d'Éric Vignier, qui avait été un rôle. Avec Michel Faux, qui avait été un rôle incroyable que j'ai joué au théâtre de l'Odéon.
Pourquoi un rôle incroyable, Othello?
Parce que parce que il est victime de sa couleur de peau, il est victime de tous les préjugés, et puis le rôle est, et puis Shakespeare, la langue de Shakespeare qui est injouable, en fait injouable, que je me souviens, je sais plus quel acteur anglais l'avait joué une première fois et puis avait attendu 10 ans pour la reprendre, cette pièce, parce qu'il estimait que il n'était pas arrivé au bout du personnage. Et c'est con, j'ai oublié le nom de cet acteur qui est incroyable. Et parce que voilà, j'aimerais bien rejouer Othello, par exemple.
Le message est passé. Ouais. C'est dans cette période-là aussi que vous avez eu envie de réaliser votre court-métrage?
Ouais. Oui. Ah oui, plein de choses. Hein. Oui, c'est dimanche.
Oui,
c'est dimanche. C'est dimanche que j'ai écrit. Je savais pas que c'était un court-métrage. Je pensais que c'était une nouvelle. Et un pote un jour l'a lu, m'a dit mais il y a un film derrière. Et ça allait très très vite. Et un producteur l'a lu et j'ai eu le financement. Et dans l'année, je l'ai tourné.
Voilà, et ce qui a donné d'autres envies de réalisation et de longs métrages ensuite. Zoé Royaux nous a rejointe. Bonjour, merci d'être avec nous, madame. Avocate pénaliste, cofondatrice et porte-parole de la Fondation des Femmes. La loi, est-ce qu'elle a évolué en matière de violence conjugale et de violence faite aux femmes? Elle change la loi ou...
Alors oui, la loi s'adapte, elle change. C'est surtout le problème, c'est pas tellement la loi, c'est son application et sa compréhension par les forces de l'ordre, comme le montre très bien la série, et par les juges qui rendent des décisions. Il n'y a pas de délit spécifique, il n'est pas écrit dans le code pénal, les violences conjugales, ça vaut tant en termes de peine. Il y a des délits et des crimes de droit commun qui sont aggravés parce que commis.
Par exemple, le devoir conjugal n'existe plus.
Alors, le devoir conjugal, c'est pas du pénal, c'est du civil, c'est une notion qui est en train d'être... Il y a une loi, là,
Ça s'appelle un viol si on n'est pas d'accord, quoi.
Oui, mais c'est pas la même chose. Il y a le viol conjugal, qui est sanctionné et qui existe depuis 1990, et puis, à côté de ça, il y a une morale un peu rance avec ce devoir conjugal qui est un peu dans tous les esprits et qui fait quand même que même si le viol conjugal est un viol aggravé, il est quand même jugé au rabais. C'est-à-dire qu'on considère que c'est quand même moins grave, madame, d'être violée par votre mari que par un inconnu. Vous aviez dit oui mardi, vous dites non mercredi. Bon, bah, ça, c'est l'eau, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, il y a quand même un truc comme ça qui fait que très longtemps, le viol conjugal, comme d'ailleurs le viol sur prostituée, étaient des viols qui étaient mal jugés, souvent correctionnalisés. On passait pas par les assises, la victime était pas parfaite, c'était gênant. Donc, on allait devant le tribunal pour avoir des juges professionnels.
Donc, il faudrait quoi? Des juges spécialisés, idéalement, pour vous, de votre
point
de
vue? Non, il faut des juges formés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est que les violences conjugales, les mécanismes de violence conjugale, comprendre ce que c'est exactement, alors les cycles de la violence, les stratégies de l'agresseur. peur. Maintenant, on parle plus d'emprise, on parle de contrôle coercitif, ça déplace la caméra. L'idée, c'est plus de dire mais pourquoi elle est restée, ce qui évidemment est un jugement moral, mais de dire comment il a fait pour qu'elle reste ou pour qu'elle revienne, malgré les enfants en danger, malgré les coups, malgré la douleur. Parce que ce qu'on dit pas assez, c'est à quel point ça fait mal, ça fait peur, mais à quel point ça fait mal d'être passé à tabac.
Vous dites maintenant, on ne dit plus, on dit plus emprise, on dit contrôle coercitif.
Oui, on parle, c'est une nouvelle notion.
Oui, mais qui décide de ça ? Est-ce que ce sont les juges ?
Alors la différence, c'est la loi. C'est la nouvelle caméra, c'est-à-dire de se positionner par rapport à monsieur, comment lui a fait pour qu'elle reste, pour qu'elle revienne, etc. Et c'est une notion donc jurisprudentielle. L'emprise, elle est rentrée dans la loi après le Grenelle des violences conjugales 2019, et le contrôle coercitif, c'est une notion qui est jurisprudentielle, donc c'est les juges qui la créent, c'est aussi ça qui fait le droit, qui fait avancer les choses, et qui date de janvier 24. Il y a 5 arrêts qui ont
été
rendus.
Donc tout n'est pas de la faute des juges, il peut y avoir aussi des bonnes décisions.
Bien sûr, il peut y avoir des avancées, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est humain, en fait. Oui. Il suffit qu'il y ait une bonne juge, comme c'est le cas là, c'est Gwenola Jolicoze à Poitiers, qui décide de faire une audience dédiée sur les violences conjugales et de créer ce concept.
Comme par hasard une femme.
Voilà. Comme par hasard
à Poitiers.
Voilà.
Mais ce qui est très important, le nerf de la guerre toujours, c'est l'argent, parce que
absolument.
Si les femmes ont...
Absolument, vous avez raison. Il y a une absence totale de moyens financiers et donc de moyens humains. Donc la formation, ça coûte de l'argent. Engager de nouveaux et de nouvelles juges et les former. L'hébergement, pour qu'il soit pérenne et pas simplement un hébergement d'urgence de 2-3 jours. Bien sûr, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on a un budget. Alors le budget a augmenté, on est à 184 millions, mais ça équivaut à 0,04% du budget de l'État. Donc c'est quand même minable, en fait. Hein. Parce que les violences conjugales, lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c'est avant tout un combat politique, c'est une décision.
Pourtant, c'est une cause, du quinquennat, c'est censé être.
Grande cause grande renouvelée. Cause, hein, deux fois de suite, elle l'a été, etc. Mais après, on a des ministres comme Gérald Darmanin ou Dupond-Moretti, voilà. Donc, c'est pas.
La dépendance économique, en fait, si une femme a de l'argent, si elle est indépendante, ça change absolument tout.
Et on sait aussi que dans les violences conjugales, on a des violences économiques. L'idée, c'est d'empêcher la femme d'être autonome. Donc, même si elle bosse, elle met l'argent sur le compte commun, mais elle a pas de carte bleue, par exemple, elle a aucun moyen. Et ce que montre très bien votre série, c'est qu'en fait, une fois qu'on a déposé plainte, où la femme dort, comment elle fait pour se nourrir, pour nourrir ses enfants, comment elle vit en fait, parce que la justice...
Parce que c'est ça, c'est la peur pour les enfants en fait, de partir, parce que comment je vais faire concrètement.
Exactement.
Et la répartition des charges, c'est-à-dire acheter, faire les courses, c'est des choses qui disparaissent, alors que acheter, voilà, être propriétaire ou copropriétaire de quelque chose, c'est encore autre chose.
Oui.
On sait à quel point les hommes... Pardon ? Non, je vais...
Et après, le budget aujourd'hui...
Pour ne pas payer les pensions parce qu'ils pensent que 200 euros, c'est pour acheter une paire de chaussures, alors que
et encore,
ça fait mal.
Ça, c'est...
Combien de procès par an ?
Alors c'est difficile à dire parce que on sait qu'il y a énormément de plaintes, mais le problème c'est que les affaires sont jugées en décalé, donc en fait les chiffres sont pas assez parlants. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a des audiences qui sont dédiées, c'est vrai, mais avec des juges qui sont souvent très très mal formés, donc en réalité c'est pas audiences de qualité.
Est-ce que ça évolue avec le temps, l'âge des juges? Est-ce que les jeunes juges formés sont mieux informés, mieux formés à ces problèmes?
Oui, peut-être, mais ceux qui jugent aujourd'hui sont pas forcément jeunes, ni des femmes. Hein,
oui, d'où ma question, mais de savoir...
Mais vous avez raison, il y a une prise de conscience, il y a quand même plus de formation. Bien sûr, on en parle, on comprend les choses, les termes changent.
Ça passe aussi par une parité aussi, chez les juges et...
Ouais, mais en fait, il y a beaucoup je crois pas, je suis pas sûre, puis je suis même pas sûre que les jugements soient genrés, en réalité, pas plus que la défense des avocats et des avocates. Est-ce que je plaide différemment parce que je suis une femme? Je crois pas, ou alors ça voudrait dire que je suis plus émotive. Non, vous voyez, je crois pas. Je crois que c'est pas une, je suis pas sûre que cette parité-là, elle existe déjà.
Il y a déjà eu malheureusement des affaires avec des femmes juges qui étaient encore plus violentes ou odieuses que ce qu'on pouvait attendre.
Et juste sur le budget aujourd'hui, en fait, la Fondation des femmes demande là, il y a eu un rapport post-Grenelle, les violences conjugales. 6 ans après, on en est où? Bon, bah, entre-temps, il y a eu 782 femmes qui ont été tuées, donc on en est loin, en fait. Et là, on demande un budget qui soit entre 2,6 milliards ou 5,4 milliards, en fait. C'est ça qu'il faut, c'est-à-dire que c'est des sommes qui paraissent énormes, mais en réalité, on a besoin de ça. Et c'est effectivement un combat qui est politique. Tuer sa femme, c'est pas de l'amour, en fait, c'est une exécution, c'est politique. Le viol, c'est pas du sexe, c'est pareil, c'est des choses qui sont politiques, et c'est majoritairement les hommes qui les commettent sur les femmes. Donc, voilà, voilà, c'est un phénomène de société qui nécessite une approche globale, pas uniquement justice-police, parce que c'est un peu tardif, c'est aussi social, éducatif, ouais. Comme le fait l'Espagne. En fait.
Comme l'Espagne, ils ont mis cet investissement.
Ouais, depuis
justement.
2004, donc, en fait, on a 22 ans de retard
oui,
sur l'Espagne.
C'est la une des journaux, c'est ouais. aussi, il y a aussi ça, oui. d'un point de vue médiatique, absolument. Je m'inclus dans l'histoire, c'est aussi ouais. ça, c'est se ouais. dire comment est-ce qu'on communique, oui. comment est-ce qu'on fait entendre, juste ouais. par des séries, mais ouais. aussi par le fait qu'on le placarde et qu'on ouais. dit, voilà, c'est une femme, et elle a un prénom, elle a une histoire.
Et comment on éduque nos enfants, ce que disait Valérie oui, aussi, base. Et le rôle aussi des papas ouais. dans l'exemple qu'ils peuvent donner à leurs garçons. 164 féminicides ont été commis en 2025. Le numéro de téléphone, je le rappelle, 3919 et la Fondation des Femmes, évidemment, sur Internet. On peut vous aider parce que c'est ce que vous faites, vous aussi, c'est aider celles qui en ont besoin. Merci absolument. Mille fois d'être venu à merci ce micro. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler dans la prochaine demi-heure?
Du sommeil en dehors de moins un mois, Nagui. Vous avez vu nos gueules?
Ça sera pour les infos de midi. La bande originale, et la bande de Julie Gontier, Olivier Tanguy Pachureau, Aldelap.
Bonjour.
Et nos invités, Valérie Bonneton et Samuel Guesby.
Bravo.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
L'affaire Laura Stern, comment une pharmacienne qui a monté une association qui s'appelle Femmes Debout protège les femmes victimes des violences conjugales ou des violences en général, d'ailleurs, mais c'est sont essentiellement les maris ou les conjoints en tout cas, qui sont violents dans la série, violents vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de leurs propres enfants. Ils ont des comportements de violence, des comportements incestueux, et elle ne sait pas quoi faire. Elle se rend bien compte que la police, comme elle dit souvent au téléphone, a d'autres choses à faire, ou a plus urgent, ou de quoi vous me parlez. Et pourtant, elle va tomber sous le charme d'un policier joué par vous, Samir Guesmi. La justice, que fait-elle? La justice finit par la menacer, elle, justement, d'aider les femmes. Et c'est là où elle a la tête qui tourne, c'est-à-dire qu'elle reste quand même droite dans sa ligne de conduite, en disant ouais. « Moi, de toute façon, je ne me ferai pas passer ni pour folle, ni pour un accident, ni pour rien, je sais ce que
elle
je fais
tout.
Et j'assume. »
Parce qu'en fait, elle est intègre et elle accepte plus une demi-vie, une moitié de vie, en fait. Elle va jusqu'au bout. Et ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'elle n'est pas dans les grands discours, c'est pas une féministe point levé, c'est pas... Voilà, mais elle agit. Elle agit. Donc, c'est ce qui me touche énormément dans le personnage, ouais.
Et puis c'est un personnage de résiste. Enfin, la difficulté c'est ça.
Une forme de résistance.
C'est une résistante.
Dire.
Ouais, c'est une résistante.
Ouais, exactement. C'est une forme de résistance comme au début de la guerre en fait où les gens ne réagissent pas et elle agit. Voilà. Donc au départ je demandais à l'auteur Frédéric Crévin et Marie Crémer, je comprends pas parce que elle a une famille extraordinaire et on ne sait rien de son enfance.
Une famille aimante.
Famille aimante.
Encore une fois, elle ne met pas tous les hommes dans le même sac en disant tous des salauds.
Pas du tout. Elle est pas du tout misandre. Elle est pas du tout. Mais elle a. On ne sait pas en fait ce qu'elle a vécu. On ne sait rien de son enfance. Donc quand même, je me dis moi j'ai besoin de comprendre le personnage. Et en fait non, c'est un personnage qui est au-delà de tout ça. C'est comme une forme de suicide quoi.
Elle se sacrifie.
Le suicide c'est presque quelque chose d'inconscient. Ouais. C'est le corps qui. Elle ne peut pas faire autrement que ouais. de sauver cette femme que d'agir. Voilà.
Mais quand je dis à ce sacrifice, c'est-à-dire
ouais,
qu'elle en oublie les fêtes d'école où ses enfants vont chanter,
oui.
elle en oublie les repas anniversaires à la maison.
Elle est partie ailleurs et elle sait ce qui l'attend. C'est-à-dire que la loi, elle sait. Je vais pas raconter. Mais
non.
Voilà.
Et là-dedans, il y a quand même un océan d'amour. Il y a une rencontre. Il y a tout d'un coup une tendresse.
Une respiration.
Ouais, c'est Samy.
Il y a un homme. Il y a des hommes.
Oui.
Et il y a
son compagnon,
Pascal
d'ailleurs, Rénier, son mari.
Qui est merveilleux. Ouais. Il y a Yannick Rénier, qui est un acteur ouais. extraordinaire aussi dans le pervers, ouais. voilà, narcissique. Et puis il y a
une palette
Samir
d'hommes.
Samir Guesmi. Hein,
oui. Non, mais c'est
qui la regarde
c'est
avec
ça,
les yeux
c'est
de
là qui est intelligent. C'est-à-dire qu'on voit ces violences faites aux femmes et on a ce sentiment d'injustice, d'incapacité à réagir et en même temps c'est pas tous des salauds, oui, c'est pas
binaire, ouais, c'est ça, il y a tous les partis qui sont prêts, ouais.
Ouais, ouais.
Mais moi,
on voit tout. Voilà, pardon.
J'ai cassé. Excusez-moi, monsieur. Qui êtes-vous?
Tu fais un tour.
Non, mais.
Je l'ai eu.
Tu l'as eu ton café ou pas?
Ouais. Il est pas assez fort.
Non, mais et c'est vrai, Samir, est-ce que vous vous posez la question de vous dire, mais comment je vais trouver ma place dans une série qui dit que la police ne fait rien, qui dit que les hommes violent et que la justice est incapable de résoudre des problèmes? Est-ce qu'on se pose cette question aussi avec qu'est-ce que je vais défendre, entre guillemets, comme cause?
Bah, c'est la grande écoute, quoi. C'est le fil très ténu d'un personnage qui, enfin, et puis symbolique aussi de la position d'homme, c'est-à-dire que s'agit pas de trop la ramener. D'ailleurs, même pendant l'émission là, j'écoute Valérie qui en parle admirablement bien de tout ça. Non, mais c'est vrai. Et que toi, t'es là et tu te dis au même titre que David, juste accueillir ce que je disais tout à l'heure, accueillir la parole de cette femme, voir à quel endroit David peut agir. Comment on agit et puis on se rend
compte dans l'empathie,
être dans l'empathie et puis être un tout petit rouage dans quelque chose d'institutionnalisé et qui est énorme.
Je veux le rappeler quand même, il y a un suspense, il y a une tension, il y a des cliffhangers à la fin de chaque des quatre épisodes. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans la suite, jusqu'où elle va aller pour défendre ces femmes victimes de violence. Est-ce que c'est un justicier dans la ville, c'est Charles Bronson qui va débarquer et elle va.
Moi je vois pas comme une justicière.
Non mais j'entends, mais on se pose la question de savoir jusqu'où elle va aller. Est-ce qu'elle va pas être prise aussi par son propre piège en disant j'ai trouvé une solution qui est simple, c'est libérer les femmes qui sont victimes en éliminant les hommes, et elle va pas forcément assumer ses gestes, elle va les assumer, mais en même temps elle se rend compte qu'elle fait des choses qui ne sont pas légales
ils sont pas légales, mais ça questionne chacun de se dire qu'est-ce qu'on ferait si une de nos personnes les plus chères,
la question est posée dans la série,
qu'est-ce qu'on ferait ?
Exactement.
Qu'est-ce qu'on ferait ? Mais on ne sait pas ce qu'on ferait. Mais si on sait que la justice n'est pas là, et qu'il s'est déjà passé des choses où la justice n'a pas été là, mais on n'en sait rien.
On a le droit d'appeler. Non, mais
si
on entend des cris dans l'appartement d'à côté, on a le droit d'appeler la police en disant il se passe un truc de bizarre.
Mais
à côté.
Clairement, comme un enfant maltraité, on agit, évidemment.
C'est pas de la délation, c'est simplement de la prévention et de l'aide à personne en danger.
Ça n'empêchera pas, une fois que tu l'as fait, une fois que tu as prévenu une fois et que ça recommence, la première fois, certes, mais au bout de la quatrième fois, qu'est-ce qui fait qu'en appelant, il se passe toujours rien ? C'est ça l'histoire. C'est ça le problème.
Ouais, c'est ça l'histoire. Ou si peut-être qu'il y a déjà eu une situation où une femme très proche est morte, et puis là, se renouvelle la situation, et quelqu'un de très très proche, qu'est-ce qu'on ferait ? On se pose la question, quoi.
Mais c'est vrai que la solution n'est pas...
On sait que la justice ne sera pas là.
La solution n'est pas d'avoir le revolver dans la boîte à gants et de se faire justice soi-même non plus.
Ah, peut-être. Elle...
Non.
c'est ça.
Ok, donc, c'est mercredi sur
Rose. Ne regrette rien.
Cette femme est dangereuse. Voilà. C'est Tanguy Passion.
Regardez la série.
Hier, je suis allé sur le site du magazine Gala, un truc de mon âge, quoi. C'était ça où je me mettais au bridge. Et j'ai lu une interview de Pascal de la Tour du Pin. Déjà, je suis contre parce que c'est trop long à dire. Pascal de la Tour du Pin, bonjour. Enfin, tu m'étonnes qu'elle fasse pas plus d'interviews. Son nom, c'est déjà le temps de poser deux questions. Et à l'inverse, ça me surprend que Tex n'en fasse pas plus. Bref, la Tour du Pin, c'est une journaliste. Elle faisait la matinale de BFM, puis elle est partie sur LCI, puis elle a pété un câble. Elle a rejoint Cyril Hanouna dans TPMP, ensuite dans la tribu de Baba. Suite logique, vu le CV de timbré qu'elle a, on l'attendait sur la chaîne Chasse et Pêche en train de dépioter des cerfs-morts, ou sur Mélodie TV déguisé en Patrick Sabatier, mais elle a dû trouver un psy très efficace ou un prêtre exorciste qui l'a libérée du démon, parce qu'elle revient à la matinale de BFM. Rien que d'essuyer de suivre son parcours, j'ai perdu 4 mois de vie. Alors, son interview est intéressante à lire, moins qu'un livre de la rentrée littéraire, mais plus qu'une notice de démarrage de cafetière Nespresso. En fait, on lui demande ce qu'elle pense des critiques, elle dit « ça ne me touche pas ». J'aimerais tellement être comme ça, moi, toutes les critiques avec moins de 25 émojis cœur, j'ai envie de crever. Exemple, sur ma chronique de mardi, un certain Anthony a écrit de moi « quelle misère intellectuelle ». Et ça m'a fait mal d'être démasqué. Et puis il ajoutait « je sais pas où France Inter va chercher tous ces médiocres ». Ça m'a rassuré parce que tous ces médiocres, ça veut dire qu'ils vous trouvent nuls, vous aussi. Et alors il continue certainement pas en banlieue, mais plutôt dans les quartiers chics, vu la dégaine du pseudo-comique. Parce que mardi, c'est vrai, j'ai fait une connerie, j'ai porté une chemise et un pull.
Quoi ?
Les vigiles à l'entrée m'ont pris pour Franck Ferrand. Ils m'ont redirigé vers Radio Classique. Je ressemblais à Jacques Chirac en 79 quand il était en tenue de week-end. Forcément, quand on est jeune, exemple Bruno Pecky, un pull à boulot qui pue. Ça lui suffit pour être sexy. Hein ? Mais à partir d'un certain âge, ta seule option, c'est la sape. Chaque mois de carrière en plus, je le dois à deux fursac. C'est Lio, les fois où j'ai fait moins de chroniques, quoi. Pascal de la Tour du Pin dit des haters, et je trouve ça pas mal. Ce sont des gens aigris qui n'ont pas d'audace et commentent celles des autres. Lisez en boucle des citations de Lao Tzu tant que vous voulez. Moi, mon mentor maintenant, c'est Pascal de la Tour du Pin. Je sais pas si Anthony, le monsieur qui a écrit, est aigri. J'ai cliqué sur son profil YouTube. Il a deux playlists musicales, dont une intitulée « Intégrale de Félix Gray ». Et ça aurait pu nous rapprocher, parce que j'ai rien contre Félix Gray. Sa chanson « La Gitane » m'a fait vibrer en 87, au camping de Saint-Brévin-les-Pins. J'avais un jean déchiré au genou, une serviette fille de Dido autour du cou, et je dansais en chantant « Ma tête tourne, ma tête frappe pour qu'elle m'aime hein ». Et là, le patron du camping disait à Fred le barman « Qu'est-ce qui t'a pris de servir de la bière à des mineurs ?» Sérieux. Mais Anthony m'a fait mal, parce que je suis sensible, je voudrais être dur, comme Pascal de la Tour du Pin, c'est une femme forte. Elle a survécu à des discussions sur ses bites entre Eric Nolot et Yann Moix concernant l'affaire Pellico dans un décor à 14 euros. C'est un rock. Mmh. Et Pascal de la Tour du Pin, autre chose, explique qu'elle se lève à 1h30 du matin pour faire sa matinale. Moi, c'est 8h et je suis déjà claqué. Je me lève à 8h. Ça aussi, ça doit être dû à l'âge. Parfois, je me réveille à 5h15. Hein, l'existence est un enfer. Je suis pour la fin de vie pour tous. Parce que quand on est jeune, plein de fougue, on dort jusqu'à 11h30 comme des cons. Et quand on est vieux, qu'on pourrait ralentir, oui, vous voyez, profiter de son matelas dodo à mémoire de forme à 4000 balles. On dort pas de la nuit, mais on est fatigué, donc irritable, hein, faites pas chier. Il y a une étude sortie cette semaine qui dit que les Français ne dorment plus. En 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Forcément, il y a 50 ans, on était en 76, il n'y avait rien à faire. La télé à 23h, la speakerine te disait « Allez, bonne nuit », le truc s'éteignait tout seul. Le président, c'était Giscard d'Estaing, dès qu'il parlait, tu t'endormais. Et les gens s'épilaient pas, donc le passage par la salle d'eau, ça durait 2 minutes. Il n'y avait que ça à faire de dormir. À part 3-4 jeunes qui se finissait au palace avec des épingles à nourrice dans le téton, la seule option, c'était pioncer. Et là, l'étude dit qu'on ne dort plus. Pourquoi ? Eh bien, c'est multifactoriel. À cause du réchauffement, d'abord. Au-dessus de 21 degrés, le sommeil est impacté. C'est pour ça que plus on descend vers le sud, plus les gens sont nerveux. Est-ce que les Norvégiens, ils s'embrouillent ? Non ? Chez Julien Courbet, vous en entendez beaucoup, des gens qui disent « Mon voisin a essayé de me tuer avec une Chris Rolls découpée en forme de dague ?» Non ! Par contre, des Corses un peu chauds, il n'y a que ça. Même les go-fast à fond, c'est pas des Inuits qui les font. Eux, ils dorment, la journée, ils sont tranquilles, vous leur filez une Fiat Multipla, et ils transportent le matos à 90 km/h de moyenne. Et autre facteur qui empêche le sommeil, les écrans. C'est à moi-même, quand j'ai pas mon téléphone en main, franchement, je scrolle dans le vide. L'autre jour, un mec qui voulait se faire titiller les tétons est venu se placer devant moi. Il m'a dit qu'il avait eu beaucoup de plaisir. Bon, 40% des Français ont un trouble du sommeil. Un quart dort moins de 6 heures par nuit, c'est mon cas. Et c'est vrai qu'après, on est sur la brèche. Allez vous faire foutre. Aux États-Unis, pire, la moitié des ados qui ont besoin de 9 heures de sommeil dorment seulement 5 heures. Et autant pour nous, c'est cuit. Hein, on ne progressera plus. Autant eux, leur cerveau se structure à ce moment-là. Moi, ado, j'avais 4 cassettes audio et un Walkman sans pile. Je peux vous dire que je dormais. Mais aujourd'hui, on est sursollicité par nos écrans qui nous ont fait une capacité de concentration de 27 secondes. Moi, avec mes chroniques de 18 minutes, je suis à côté de la plaque. J'aurais cartonné, oui, mais en 76. Alors laissez-moi même.
Merci.
Tanguy Pastureau.
Sur scène, le 2 avril, tu seras à Arcachon.
Oui. Sur la plateforme France.tv, sur HBO Max également, l'affaire Laura Stern avec nos invités Valérie Bonneton et Samir Ghazemi. C'est un thriller, c'est un suspense, mais c'est comme un documentaire aussi qui raconte le véritable drame vécu par les violences conjugales. Donc c'est à voir sous différents prismes, mais je pense à voir en famille en tout cas, et riche d'enseignements.
Ça apporte à chacun, aux hommes, aux femmes, aux enfants, pour que tout le monde vive ensemble.
Absolument. Bien. D'autres événements culturels, Aïda.
Oui. On a évoqué dimanche la journée internationale des droits des femmes. Ce jour-là, une action symbolique a été menée à Paris. Cela concerne la chanteuse la plus importante du monde. Pour moi.
Hein. Taylor Swift ?
Pour moi.
Rihanna ?
Non.
Dalida.
Dalida.
Non, absolument. Non, vers les seins.
Alors voilà. Que s'est-il passé ? Pour ce 8 mars, une artiste, l'artiste Luz, Lucie Lesterloo Taride, a conçu une armure. Une armure qu'elle a brodée avec du tissu, avec des petits miroirs, avec un message « Vous nous obligez à sortir les armures ». Et en fait, elle a recouvert la statue de Dalida à Montmartre avec cette armure-là pour lui recouvrir la poitrine. L'idée, c'était de dénoncer le fait que, même si c'est une statue, on touche comme ça les seins de Dalida, ça pose la question du corps de la femme dans l'espace public, et c'était une façon symbolique pour le 8 mars de dénoncer les violences faites aux femmes, les agressions sexuelle. Elle installe cette armure de tissu à 6h30 du matin. Eh bien, à 10h50 environ, cette armure est découpée par un homme, vraisemblablement gêné par cette installation. Tout ça pose pose la question de comment est-ce qu'on envisage, là encore, le rapport au corps de la femme, à l'art, à la dénonciation, en ce jour du 8 mars. Je me suis un peu renseignée, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on tripote les seins de Dalida ? Alors, l'idée, c'est que ça porterait bonheur.
Est-ce qu'on tripote les parties d'Hercule ? Alors,
exact. Et je suis allée chercher ça. Ce qui m'a intéressée, je me suis dit, bon, est-ce qu'on y va bien en tête, ou est-ce qu'on se renseigne un peu sur, est-ce que le corps, est-ce que c'est une pratique qui est répandue aussi sur des corps masculins ?
Sur des fesses.
Oui, sur des fesses. Il s'avère que c'est le cas. Exemple le plus probant, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au Père Lachaise pour voir Victor Noir. Victor Noir, c'est un journaliste, un ancien journaliste. En fait, son corps est représenté avec une grande statue en bronze allongée. Une superstition raconte que si on s'y frotte, on se frotte sur son membre proéminent, ou si on le chevauche, en gros, ça favorise la fertilité.
Cette histoire m'amuse parce qu'il se racontait effectivement la légende des aigles. Il y a des femmes qui se faisaient enfermer dans le Père Lachaise pour se frotter toute la nuit.
Espérer tomber enceinte. Absolument. Ouais, exactement. Qui chevauche. Ouais. Voilà. Et alors, si on embrasse sur la bouche, parce qu'on n'est pas obligé de se frotter, mais si on embrasse sur la bouche Victor Noir, on pourrait trouver l'amour dans l'année. C'est une des rumeurs et superstitions qui entourent encore Victor Noir. Donc, il y a une forme d'égalité au fait que on frotte, on tripote.
Vous avez vu traîner au cimetière Lachaise.
C'est exactement ça. Alors, sachez que c'est passible de poursuite pour dégradation.
Dégradation ?
Oui, au Père Lachaise, en fait, dégradation, c'est-à-dire à force de frotter le bronze.
Faut se frotter très fort, quand même, pour...
Les parties sont plus claires, c'est comme les seins de Dalida.
Ah, d'accord.
Les seins de Dalida, vous allez voir, à force, ils sont astiqués, exactement, c'est exactement ça. Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on tripote, qu'on touche des statues sur les parties intimes ? Je crois qu'il y a un phénomène qui est l'effet de groupe. Je suis sûre que seul, si vous vous promenez seul, vous n'irez jamais toucher les seins de Dalida seul dans la rue, vous ne ferez pas un arrêt pour aller... Tanguy ? Tanguy, on est ensemble.
Tanguy, tu as échappé au moment le pire de ta journée.
Voilà, en tout cas, ça interroge sur peut-être nos futures pratiques. Peut-être que la prochaine fois qu'on passera devant le buste de Dalida, on se posera une question.
Un peu de respect.
De toucher.
Il y avait la statue de Balzac qui avait un nez rouge à un moment donné dans Paris. Il avait mis le pauvre Honoré de Balzac. Vous n'avez jamais vu ça ?
Non, jamais.
Un nez rouge de clown qui est resté très longtemps. Je me suis demandé si c'était pas une blague de potage, mais on en fait pas trop sur les statues quand même. Ça reste de la pierre et des statues.
Oui, là pour le coup, ce qui a été intéressant, c'est pourquoi tout d'un coup cet artiste qui fait cette armure là, pourquoi quelques heures après elle est découpée par quelqu'un. Ça dit quelque chose tout d'un coup sur le côté quoi ? Les féministes nous emmerdent. J'imagine très bien la personne qui a été faire ça. Tout ça, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Autre question, on va parler d'une rumeur, qui a été démentie par la principale intéressée et qui concerne Meryl Streep.
Oui.
Elle va reprendre un rôle qu'elle avait déjà porté.
Il était prévu qu'elle incarne quelqu'un, mais en fait c'était une rumeur et ça a été démenti. Qui devait-elle incarner Meryl Streep ? Elle devait interpréter un rôle hyper fort dans une série tirée d'un livre. Un livre français.
Absolument.
Et La joie de vivre avait été annoncé. Ce livre, donc, qui a été traduit en 22 langues, qui est en tête des ventes dans plusieurs pays, dont la France. Ouais. Ce livre, témoignage de Gisèle Pellico, coécrit avec Judith Pérignon, devait, selon la presse et les rumeurs, faire l'objet d'une série, d'une adaptation en série. Et Meryl Streep était pressentie, et bien Gisèle Pellico, de démentir et de dire qu'il n'est encore pas du tout question d'adapter quoi que ce soit avec qui que ce soit.
Il y a le fils qui veut faire un stand-up.
Voilà, un spectacle, un stand-up, je sais pas, une forme.
Donc, c'est pas... de la vie de Gisèle Pellico, ça doit être bien costaud.
Ouais. Quel regard vous portez sur cette prise de parole, sur ce livre et La joie de vivre, sur ses apparitions télévisées ?
Magnifique, cette femme. Parce que quand elle s'exprime, j'ai regardé La Grande Librairie, elle est tellement digne. Et surtout, c'est aussi une forme de résistance parce qu'elle est du côté de la joie. Et je trouve ça merveilleux, parce que pour toutes ces femmes qui sont mortes, toutes ces femmes qui souffrent, elle dit « je résiste, je suis du côté de la joie et je n'élimine pas tout ce que j'ai vécu parce que j'ai été heureuse et
elle est retombée amoureuse.
C'est extraordinaire. Et en fait, elle donne beaucoup de courage aux femmes, c'est de se dire tout est possible, encore je choisis, je décide de ma vie, et je peux aimer, et tout est encore possible. Voilà, je trouve ça merveilleux.
Et son prénom est cité d'ailleurs dans la chanson de Suzanne.
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi.
puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire.
Cette chanson ouvre la série L'affaire Laura Stern. Les 4 épisodes disponibles sur la plateforme France.tv et les 2 derniers épisodes en diffusion linéaire, ça sera mercredi prochain, porté par Valérie Bonneton, Samir Ghezmi, entre autres, qui étaient nos invités, mais également Pauline Parigot, Rim Foglia, Pascal Rénéric, Yannick Régnier, Marie-Sophie Ferdan, Eva Huot, Darren Muselet, Catherine Amé, et c'est Hakim Isker qui en est le réalisateur. Des excuses après présenter.
Ah oui, pas mal d'excuses. Alors désolé déjà pour Marie Kremer, Frédéric Krivin et Hakim Isker, les créateurs et réalisateurs de la série, ainsi que France Télévisions et HBO Max, qui ont entendu toute l'émission que Valérie Bonneton et Samir Ghezmi n'avaient pas joué pendant le tournage. Voilà. Je les ai eu au téléphone, ils attendent le remboursement de vos cartes. Désolé pour le micro de Samir Ghezmi qui n'a pas servi à grand chose pendant l'émission, tellement il était loin. Même quand Leïla l'a accusé d'être un gros fumeur de joint. Je comprends mieux pourquoi il est autant détendu. Désolé enfin pour nos fidèles auditeurs qui ont regretté que la rubrique Soignons nos hémorroïdes avec des huiles essentielles ne dure pas plus longtemps. J'en suis le premier déçu, j'espère qu'on en reparlera demain avec Jonathan Lambert.
Mande poivrée.
Samir Ghezmi, vous diriez à. Un jeune garçon qui nous écoute, un jeune homme, de regarder la série parce que...
Pourquoi je lui dirais de regarder la série à un jeune homme?
Ouais.
Moi, je sais pas si je lui demanderais de regarder la série. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont prédisposés déjà? Est-ce qu'il faut déjà leur foutre ça devant les yeux? Est-ce que...
C'est pour ça qu'il faut peut-être les amener à la regarder en disant, tu peux apprendre des choses, tu peux comprendre des choses, tu peux évoluer et ne pas t'en tenir à des images propagées par des clips, par d'autres films, ou par des influenceurs ou des TikTokers.
Est-ce qu'on a le réflexe d'être violent quand on est un jeune garçon? Oui, peut-être la question, je me la pose. Enfin, j'ai pas réfléchi.
En tout cas, de lui montrer qu'il y a d'autres réflexes à avoir et celui justement d'être dans l'empathie de votre personnage ou dans la protection.
On a tous une responsabilité.
Ouais, fille et garçon.
Ouais,
fille et garçon.
Ouais. Merci mille fois en tout cas d'être venu à ce micro, Samir, Valérie. La série passe les 2 derniers épisodes mercredi prochain sur France 2. Demain, on se retrouve avec R. Jonathan Lambert. Passez une belle journée sur Inter.